Bonjour Julie, c'est bien que tu sois venue, du coup on peut peut-être reprendre la conversation là où on l'avait laissée la dernière fois.
Oui, ce que je te demandais, c'est pourquoi d'après toi les figures de Spinoza et de Descartes étaient à ce point opposées aujourd'hui. Tu sais, d'un côté Descartes rationaliste, le fantôme dans la machine, l'idée d'un philosophe qui cherche à nous donner une puissance absolue sur nos passions, etc. Et inversement, Spinoza qui accordait une grande importance aux passions, qu'on retrouve, comme tu sais, beaucoup maintenant dans les rayons zen et bien-être des librairies, etc. Ça vient d'où d'après toi ?
À mon avis, en tout cas pour Descartes, le premier responsable, c'est Descartes lui-même, parce que quand tu regardes de quelle façon il a répondu à ses objecteurs matérialistes, par exemple, c'est tout simplement en fermant certaines lectures possibles de son texte et en endurcissant d'autres, notamment en durcissant ses interprétations spiritualistes, rationalistes, telles que tu les décris. Et puis finalement, quand on regarde un petit peu l'histoire de la réception du cartésianisme, les choses ont continué, se sont amplifiées d'une certaine façon, parce que quand tu regardes son premier éditeur, Claire Solier, il a travaillé Descartes dans ce sens de la distinction de l'âme et du corps, dans un contexte justement où le cartésianisme était attaqué pour ses positions potentiellement matérialistes. Quand tu regardes son biographe, Bayet, c'est la même chose. Et puis quand on se rapproche un petit peu plus de nous dans le temps, il suffit de considérer le rôle écrasant institutionnellement de quelqu'un comme Victor Cousin au XIXe siècle pour voir comment cette image spiritualiste, disons un peu éthérée, laissant de côté aussi tout ce qui concerne la dimension scientifique du travail de Descartes, sa dimension, pour le dire un peu rapidement, incarnée, comment cette image finalement elle est passée dans l'université, elle est arrivée jusqu'à nous, et puis elle a fait fortune dans un certain nombre de figures ou de caricatures.
Ouais. Mais tu sais, j'ai le sentiment en fait que dès le départ, les choses étaient différentes pour Spinoza, parce que précisément, il n'a pas cherché à défendre une figure ou une autre de lui-même. Du coup, il a laissé la porte ouverte aux figures qu'on a construites de lui, peut-être plus radicales. Spinoza athée, duquel il fallait absolument se distinguer, avec lequel il ne fallait pas être rapproché. Athée vertueux, par moments aussi. C'est l'idée aussi de quelqu'un qui mêle le corps et l'esprit. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il a joué un rôle aussi dans la figure de Descartes aujourd'hui. Dans la mesure où, même s'il doit beaucoup à Descartes, sur les thématiques du corps, par exemple, ce que le corps peut par lui-même, indépendamment du divin, du surnaturel, même de l'esprit, etc., sur l'idée des passions aussi, ce qu'on peut en faire, comment on peut les expliquer, c'est une sorte d'atelier de travail pour lui de lire Descartes, d'atelier de constitution de sa propre philosophie, mais en même temps, il ne le dit jamais dans ses textes. Et inversement, quand il cite Descartes, c'est pour s'en distinguer. Donc lui-même a insisté sur cette distinction avec Descartes, cette figure de pouvoir absolu sur le passion, de rationalité, etc. Et ça a pu, il me semble, jouer un rôle à la fois dans les figures qui ont été construites de Descartes par la suite et aussi dans la grande distinction qui a été opérée entre cette figure de Descartes et la figure postérieure de Spinoza.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, réfléchir sur la généalogie de ces figures, ça nous permet aussi du même coup d'envisager un peu autrement justement l'histoire de la philosophie et les relations entre ces philosophes. Par exemple, si on revient une conception un peu plus complexe de l'œuvre de Descartes, si on y intègre justement les travaux sur les passions, les travaux sur le corps, les travaux sur la science, il est clair qu'on réintègre du même coup Descartes dans une certaine histoire de l'anthropologie, dans une certaine histoire de la sécularisation aussi. Le Descartes responsable, entre guillemets, de cette forme de sécularisation n'étant pas plus entièrement satisfaisant que le Descartes idéaliste, mais la conjonction des deux nous permettant en tout cas d'avoir une image un peu plus satisfaisante peut-être de la richesse du texte de départ. Et puis, à l'inverse, évidemment, ça a des conséquences aussi sur le rôle écrasant qu'on attribue à Spinoza, par exemple, dans Les Lumières radicales.
Et c'est à ça que je pensais, justement, parce que ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est que c'est un peu la démarche inverse. C'est-à-dire que comme il n'a pas cherché à défendre une idée, une figure autre de sa philosophie, c'est d'autres choses, en fait, qui ont été mises en avant. Et je pense justement à Jonathan Israel avec Les Lumières radicales, cette idée de Spinoza qui aurait donné lieu au mouvement des Lumières, au mouvement égalitariste, au mouvement démocratique. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, c'est une figure. Parce que Spinoza, il n'est ni démocratique, ni égalitariste, si on entend les choses au sens actuel du terme. Et donc, ça a occulté aussi des choses dans sa philosophie, mais des choses autres. Par exemple, le fait que lorsqu'il dit que les gouvernants sont tout aussi passionnés que les gouvernés, ça veut dire aussi que les gouvernés ne seraient pas plus à même d'être au gouvernement que ceux qui y sont actuellement. Donc en fait, cette tendance comme ça à accentuer la radicalité de Spinoza dans un mouvement divergent par rapport à la figure de Descartes, ça a aussi masqué des éléments de sa philosophie. Mais ce que je trouve intéressant, et je crois que c'est aussi ce que tu fais dans ton travail, c'est de relire en effet les textes, mais en se demandant à la fois ce qui a pu donner lieu à ces figures, parce que si je pense que c'est aussi un de leurs grands points communs, hein, tous les deux, s'ils ont donné lieu à des figures aussi fortes, c'est parce qu'il y avait toutes ces potentialités dans leurs textes, et en même temps à compléter ces figures avec des éléments qui ont pu être occultés dans leur philosophie. Je pense à ce que Spinoza dit de la modification de ses habitudes. Je pense à ce qu'il dit de la temporalité, de l'existence, de la difficulté qu'on peut avoir à changer ses pratiques, à changer ses façons de faire, ses modes d'être, etc. Et je pense que ça nous donne un peu aussi à la fois une idée autre de leurs textes eux-mêmes en histoire de la philosophie, une autre compréhension de la réception de leurs textes au cours des siècles, et aussi une autre compréhension de la postérité qu'ils ont eue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, puis il est clair que de toute façon, recevoir un auteur, recevoir un texte, recevoir des figures d'un auteur, c'est choisir, et c'est aussi hiérarchiser, c'est-à-dire que on a une espèce de bouquet de tendances ou de potentialités qui nous est proposé, et à partir de là, on peut les combiner de différentes manières. Et ce que ça m'inspire, c'est que finalement, lorsqu'on essaie de revenir à une image un peu plus touffue de ce bouquet, finalement, le bouquet spinoziste et le bouquet cartésien ne sont peut-être pas si différents que cela l'un de l'autre, mais en tout cas, ce qui va changer, c'est la manière dont on va harmoniser, combiner ces fleurs entre elles et ce qu'on va en faire comme bouquet final, si j'ose dire. Alors, on pourrait se demander quel type de leçon d'enseignement, du coup, on pourrait peut-être tirer de l'un ou de l'autre aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'ai envie de dire que pour le cartésianisme, peut-être que le grand intérêt, c'est de nous permettre, dans le bouquet qui combine les fleurs de la détermination et puis les fleurs de la subjectivité, peut-être de ne nous faire pas oublier les fleurs de la subjectivité et la façon dont le sujet peut être un pôle actif finalement pour son existence et pour ses propres choix. Mais finalement, est-ce bien différent de la leçon qu'on pourrait tirer de Spinoza ?
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça nous rapproche vraiment de la philosophie spinoziste et probablement de ce que Spinoza a pu trouver dans la philosophie cartésienne sans le dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas nier que quand on regarde leur philosophie déjà constituée, il y a quand même une différence assez marquée dans la façon qu'ils ont de présenter les choses et également dans le projet qu'ils suivent. Je pense notamment au projet éthique de Spinoza qui est très fort et qui oriente en fait toute une grande partie à la fois de sa philosophie et en même temps de la manière dont il va s'approprier des principes cartésiens. Et en fait, d'un côté, ça donne quelque chose de très différent et d'un autre côté, il me semble que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par cette idée d'atelier de travail. D'un autre côté, il me semble que jamais ça n'aurait pu donner cela s'il n'avait pas lu Descartes. Et je pense que les deux sont intéressants et les deux nous expliquent l'importance de Descartes et de Spinoza à la fois comme figure singulière dans l'âge classique et à la fois dans la constitution d'une pensée autre aujourd'hui.
Alors finalement, on voit aussi par là que aborder les questions contemporaines avec une démarche d'historien ou d'historienne de la philosophie, ça n'a pas seulement un intérêt historique ou généalogique qui, par exemple, consisterait à nous faire comprendre comment les problèmes se sont progressivement formulés, diversifiés dans le temps.
Oui, je trouve en fait que c'est les deux à la fois. C'est un intérêt historique parce que si on ne réinscrit pas dans le contexte, on ne comprend pas en fait. On en reste aux réponses données, mais on ne comprend pas les questions posées, ce qui est le fond commun entre eux, ces auteurs de l'âge classique et nous aujourd'hui. C'est un intérêt, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on étudie les différentes figures, de faire le lien avec le contexte politique, le contexte économique. On parlait tout à l'heure des Lumières, qui ont eu une grande importance, par exemple, pour la constitution de la figure de Spinoza radical. Et ça permet aussi de comprendre autrement nos questionnements d'aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça aussi que les philosophies de Descartes et de Spinoza nous paraissent aussi parlantes. parce qu'en fait on retrouve les questions d'hommes qu'on peut se poser aujourd'hui, même si c'est dans un autre contexte. Et c'est intéressant pour ça d'avoir travaillé cette étape intermédiaire des figures, parce que ça nous permet de comprendre que nous aussi, même si on travaille les textes en historien de la philosophie, nous aussi on construit une figure aujourd'hui de Descartes et de Spinoza dans nos travaux, en lien avec les pratiques actuelles, en lien avec le contexte actuel et en lien avec ce qu'on peut essayer de faire à notre niveau pour aider à comprendre la manière dont on fonctionne et aider à comprendre tous les enjeux contemporains.
Oui, finalement, les actualiser, ça nous permet aussi de les relire autrement.